Une franchise de jeux vidéo qui a vu le jour en 2007 et qui s'est rapidement transformée en propriété intellectuelle massive lorsque la série s'est vue adaptée en film, en bande dessinée, en roman et sous plusieurs autres itérations. L'histoire oppose les assassins aux Templiers dans une variété d'événements historiques allant de la conquête de l'Amérique à la Révolution française. La série puise ses inspirations du roman « À la mute » de l'auteur slovène Vladimir Bartol. En 2016, la franchise a dépassé le cap des 100 millions de copies vendues à travers le monde, faisant d'elle la 18e propriété intellectuelle de jeux vidéo la plus populaire de l'histoire du genre. Le succès du jeu est expliqué par l'innovation en termes de récits emboîtés dans la franchise, évoquant de grands moments de l'histoire humaine via une intrigue conspirationniste. Le travail avec les dynamiques de combat et les enchâssements de quêtes secondaires, ainsi que le sang-froid démontré par les studios dans la diversité des représentations et des croyances. Aujourd'hui, pour Pop 183, nous parlons d'Assassin's Creed avec Éric Lancelot et Elisabeth Simpson.
Allô.
Bonjour.
Moi, le dernier Assassin's Creed auquel j'ai joué, c'est Black Flag. J'avais de la difficulté avec la dynamique navigation des vaisseaux. J'arrêtais pas de me faire pogner dans du corail. Ouais. Puis j'ai décidé, dans un élan très, très honnête, de crier « fuck it » dans mon sous-sol et de capituler sur la série au grand complet. Elisabeth, toi, tu t'es rendue jusqu'à?
À Unity, en fait. Je me suis rendue jusqu'à celui qui se passe en Révolution française, en suivant l'ordre chronologique de sortie des jeux, mais en délaissant ceux qui étaient sur des consoles autres que Xbox 360 et PS4 maintenant que j'ai à la maison. Fait que je sais qu'il y en a sorti d'autres sur d'autres plateformes, mais j'y ai pas joué. J'ai même joué un petit peu, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, au jeu mobile d'Assassin's Creed, qui était sorti dans le temps de Syndicate. Je m'étais rendue très rapidement, très haute dans les palmarès, puis par la suite, j'ai complètement arrêté. Mais oui, on pourra en parler peut-être plus tard, mais le retard que j'ai à y jouer est majoritairement dû à un problème de financement. Financez-moi, j'aimerais jouer à plus de jeux vidéo, s'il vous plaît.
Et toi, Eric?
J'ai une grande histoire avec les jeux vidéo, tu sais, travailler dans un microplay pendant 5 ou 6 ans, ce qui fait qu'au moment où les Assassin's Creed sortaient année après année, on s'entend que les discussions véhémentes et pleines, disons, de passion souvent mal placées, donnaient lieu à une remise en question de « achetais-je ou n'achetais-je pas Assassin's Creed? »« Suis-je prêt à me faire détrousser par des bandits? » De grand chemin.
Ben là...
Mais non, mais c'est une blague. C'est parce que dans le fond, il y a des gens qui font des liens entre Abstergo et Ubisoft à partir du moment où, dans le jeu, Abstergo Entertainment, qui sont les méchants, les Templiers, se mettent à créer des jeux vidéo à l'intérieur de l'univers d'Assassin's Creed. Mais c'est en même temps à partir de ce moment-là que Ubisoft s'est mis à vendre des passes de saison. En bon français, donc du contenu qui est déjà créé, qui serait déjà disponible pour tous et chacun si les jeux avaient été encore faits dans des cartouches, hein, comme le bon vieux temps. Mais puisque ce sont des contenus téléchargeables, accessibles avec des codes en ligne à achat unique qui sont associés à votre compte Ubisoft, hein, et non à votre compte Xbox Live, des fois, je me sentais, lésé.
Mais en même temps, c'est intéressant ce que la compagnie elle-même est... mise en scène les propres processus de son hyper-capitalisme et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, oui, effectivement, il y a comme une ouverture à la pointe, mais il y a quelque chose dans les Assassins de très métatextuel. Le jeu est toujours à l'intérieur du jeu. On est toujours, en fait, dès le début, puis c'est à peu près... je vais me limiter à ça, là, les trois premiers, la qu'est-ce qu'on appelle la trilogie d'Enzo. Ezio.
Ouais.
Il a oublié Altaïr aussi.
Oui, il y a Altaïr.
Oui, c'est vrai. Quelques détails m'y échappent. Les détails quand même fondamentaux qu'on connaît assez bien, c'est ça, c'est ses origines, notamment avec le créateur ou le concepteur, Patrice Desilets, qui est devenu une figure assez importante via cette franchise-là.
Avant même? Oui, c'est lui qui était à l'origine le concepteur des Prince of Persia. Dans le fond, Assassin's Creed était censé être à la base C'était censé être Prince of Persia Assassin, qui était un spin-off dans lequel les assassins au service de la royauté devaient remplir des missions. Donc, tous les éléments de furtivité étaient déjà réfléchis. C'est juste qu'Ubisoft, ne voyant pas assez de Prince of Persia à l'intérieur de la franchise, n'a pas donné le go pour y aller. Mais Patrice Désilets s'est dit, ben là, on va se faire une franchise au complet, en renier Prince of Persia et créer Assassin's Creed. Déjà dans les années, je pense que c'est au début des années 2000, en 2003 qu'il y avait eu l'idée, donc ça a pris environ 3-4 ans avant que le premier Assassin's Creed sorte. Et puis dans le fond, à partir de là, c'est là que les éléments de jouabilité principaux ont été vus. Là. Je peux en nommer quelques-uns. Là.
Mais je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment un souvenir vraiment cristallisé, en fait, d'une femme d'Ubisoft qui était venue parler d'Assassin's Creed à Tout le monde en parle. Je sais pas si ça...
Jeanne Raymond, hein?
Bon, ben voilà. Bon, ben c'est en 2006. Donc, comme on a dit plus tôt, j'ai vraiment le souvenir là, de cette personne-là qui vient puis qui parle d'un jeu qui va avoir des graphiques à couper le souffle, où est-ce qu'on voyait justement les premières images de ce qu'on va appeler la synchronisation lorsqu'on est haut dans une tour et qu'on voit où est-ce qu'il y a un aigle qui est présent et qui va nous permettre de pouvoir scanner une partie de la map et d'unlocker donc des parties de la map ou des items ou des missions puis tout ça. Puis je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais ça m'avait vraiment marqué de voir cette espèce de qualité graphique là, comme il y avait eu, il me semble, un avant puis un après Assassin's Creed dans notre désir de voir de la qualité là. Peut-être que moi qui ne suis pas assez geek de l'histoire du jeu vidéo, peut-être on manquait des bouts, mais j'ai vraiment l'impression que pour monsieur, madame, tout le monde, il y avait eu ce moment là où les Québécois ont été en contact avec comme OK, on est rendu ailleurs, puis c'est des talents québécois, puis c'est des talents montréalais entre autres qui font ces si belles images.
C'est vrai que ça a été très important de manière locale, ça. Cette idée que Assassin's Creed est devenu un peu le portée d'entente de la spécialisation québécoise dans l'industrie du jeu vidéo. On peut tous faire un Assassin's Creed et si on est capable de financer les écoles, les instituts pour être capable de faire des programmeurs puis des designers, puis ainsi de suite, on pourrait être chef de file dans ce domaine-là. Puis c'est à peu près après Assassin's Creed que EA est venu s'installer et Warner Brothers sont venus s'installer à Montréal que de plus en plus de studios de jeux vidéo voulant profiter de cette expertise de main-d'œuvre se sont installés sur notre île.
Et au moment où on enregistre, on est en période électorale et il y a beaucoup, il y a dans des plateformes carrément des promesses électorales qui sont basées sur le financement dans l'industrie du jeu vidéo. Là, t'sais, donc ça parle quand même aussi beaucoup de quelle importance cet enjeu-là a pris au niveau économique puis au niveau du travail et tout ça.
C'est fantastique de voir que c'est parti de Assassin's Creed. Il y avait des trucs qui se faisaient avant. Il y avait quand même de la production de jeux vidéo ici, mais je pense que tu l'as bien cerné. C'est Assassin's Creed qui a placé cet imaginaire-là dans la tête de tout le monde qui est à l'extérieur de l'industrie du jeu vidéo, notamment avec des présences médiatiques de Jeanne Raymond, qui a été... Si je ne me trompe pas, la première femme porte-parole, enfin, une employée d'Ubisoft qui travaillait en tant que gestionnaire de projet, si je me rappelle bien, mais qui a été mise à l'avant-plan comme étant quelqu'un qui coordonnait ce projet-là. Il n'y avait pas de femme, puis même qu'actuellement, il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense que le mot pionnière devrait être utilisé quand on parle de Jeanne Raymond.
Tout à fait.
D'accord.
Bien mieux.
Non, c'est que je regardais, c'est que aussi Ubisoft avait capitalisé sur Prince of Persia, Warrior Within aussi, qui avait été un excellent jeu, qui avait quand même commencé à la pointe de l'iceberg de la qualité des jeux qui peuvent être faits à Montréal. Parce que déjà, le premier Prince of Persia avait été quelque chose quand il est sorti au GameCube puis au PS2. Parce que c'était le principe de retour dans le temps qui avait été fait à l'intérieur, tu sais. Ce qui n'avait pas été utilisé souvent dans les jeux. Puis ça a été repris même maintenant dans des jeux indie comme Braid.
Oui, c'est ça.
C'est ça. C'est ces principes-là de saut dans le temps ou même de jeu avec le temps qui est dans une certaine mesure aussi repris dans Assassin's Creed parce que les éléments qui sont complétés dans les mémoires ont une influence, une incidence sur ce qui se passe par la suite. Les actions du personnage de Desmond Miles ne seraient pas les mêmes actions s'il n'avait pas vécu dans son temps présent les mémoires de ses ancêtres qui sont à l'intérieur de lui-même. Fait qu'il y a comme une espèce de questionnement avec le temps qui est important dans Assassin's Creed. Puis même, on revient maintenant, après 11 ans, le jeu qu'ils ont décidé de sortir, là, ça va être Odyssey, ce qui revient au temps grec. Ça, j'ai un commentaire à faire là-dessus, parce que même Thomas de Quincy disait qu'il n'y avait aucun assassinat en Grèce, ce qui fait que c'est une période historique qui n'est pas intéressante au niveau des assassinats en tant que, qu'esthétique. Ça, on y reviendra. Mais là, ils sont allés aux Origins, donc... On n'est plus capable de continuer dans le futur parce qu'on est allé jusqu'à 2012, qui est l'année qui coïncide avec
l'année l'épuisement de production. Du calendrier Maya.
C'est ça, l'année de production, en fait, l'année de sortie coïncide avec l'événement astronomique. Puis après, ils sont obligés de reculer encore plus dans la mémoire des assassins pour être capable de produire du contenu nouveau pour aller prendre un personnage moderne puis lui faire vivre des choses. Parce que dans Assassin's Creed Origins, tu joues une archéologue qui est embauchée comme contracteur autonome chez Abstergo pour faire des fouilles chez les Égyptiens, parce que c'est là qu'il y aurait eu la technologie de la pomme d'Éden, encore. Parce que dès que tu commences le jeu, ton personnage en trouve une.
Mm-hmm.
Tous les premiers jeux, tu passes tous les jeux à chercher une pomme d'Éden, puis dans ce jeu-là, tu commences avec une pomme, mais ton personnage, je sais pas c'est quoi.
Fait, je joue que c'est un peu...
C'est ça. Mais le fait est que ces personnages-là n'étaient pas encore des assassins dans Assassin's Creed Origins. Donc, ça explique pourquoi cette technologie-là est importante puis pourquoi les assassins ont été créés pour protéger cette technologie alien qui a été déposée sur la Terre pour ce groupe-là qui devait se créer de toute façon. Parce que quand tu rencontres le fantôme, elle dit « Ah oui, on avait placé ça pour vous. » OK, le groupe était...
Le fantôme de qui, là?
Le fantôme de Nalien.
Oui.
C'est ça. C'est,
mais là, quand tu parles d'Alien, est-ce que tu parles, par exemple, de Minerva puis tout ça qu'on voit dans... OK, ouais, c'est, les mêmes hologrammes, si on veut, d'anciens dieux, mais qui, dans le fond, sont des extraterrestres.
Qui sont apparus sur la planète. Okay. Puis qui ont laissé leur technologie là, puis qui ont été... dont la civilisation a été éteinte à cause d'un événement cataclysmique, comme celui qui se reproduit, devinons-le, en 2012.
Okay, OK.
Mais ça, j'ai manqué ça, ce bout-là. Là,
mais parce moi, que... j'ai manqué beaucoup de bouts.
Parce que, en fait... non, mais ce que j'ai manqué, en fait, c'est que là, il y a l'événement cataclysmique.
En 2012, il arrive, mais il est protégé par le sacrifice de Desmond Miles.
Oui, OK.
En se sacrifiant, donne quand même accès à toutes les... il dit, oui, tu vas nous protéger, déesse, contre l'événement cataclysmique, mais en même temps, il donne le contrôle de des humains à cette déesse-là à la fin du jeu.
Qui arrive dans Brotherhood. Ouais, voilà. Parce que ça fait quand même quelques années là, de tous ces jeux-là. Puis il y avait quelque chose d'intéressant, justement, quand on a passé de Desmond à... Là, on est dans Abstergo, on est le programmeur. Ça, c'est dans le troisième, quatrième?
Quatre.
Qu'est-ce qui se passe dans le troisième?
Non,
mais genre, je me rappelle de l'histoire de Connor, mais on dirait que je me rappelle pas de ce qui se passe dans l'extra...
Mais je pense que Connor, c'est encore... c'est la fin de Desmond Miles, je pense. C'est la fin de la trilogie de Desmond Miles, puis Revelation, c'est la fin de la trilogie de Ezio. Fait que ce que je t'ai raconté sur le sacrifice qu'il doit faire à la fin, c'est à la fin du 3.
Bon, OK, voilà.
Fait que c'est le 1, 2, 3, c'est la trilogie Desmond Miles. Le 2, Brotherhood, puis Revelation, c'est la trilogie d'Ezio à l'intérieur de la trilogie de Desmond Miles.
OK, ça a beaucoup de sens. Et là, dans le quatrième, il y a beaucoup de matière dans le quatrième, on s'entend. Parce que tout le concept où est-ce que, ben là, on n'est plus dans Desmond, on est une perspective de première personne qui va se promener dans Abstergo, puis que t'es un programmeur, puis qu'une fois de temps en temps, t'as quelqu'un qui te donne un café, puis qui te dit, là, tu reconnais tes alliés, les alliés de Desmond, en fait, qui sont rendus comme des espions dans Abstergo, puis qui te disent comme, ouais, ça serait nice que t'aies porté telle affaire. Mais il n'y a pas vraiment de contexte où est-ce que tu deviens un espion, où est-ce que tu te fais expliquer que tu dois devenir un espion. Est-ce que tu as toujours été un espion? Mais en même temps, ils ne t'expliquent pas vraiment ce que tu es censé faire. Tu fais juste comme, OK, je vais aller pirater telle affaire. OK, je vais aller porter tel truc. Je vais aller voler telle affaire. Puis ça continue comme ça. Fait que déjà, il y avait cette affaire-là bizarre. Puis dans le quatrième aussi, il y avait le moment où est-ce que... tu te rends compte que le personnage que tu joues à l'intérieur de l'animus a jamais été assassin, a jamais voulu être assassin, ne le sera jamais. Il y a juste les pouvoirs et l'habit, mais sinon... Puis ça m'avait un peu fâché, parce que je pense que j'étais un petit peu une puriste de ça, on dirait peut-être de l'Assassin's Creed. tu sais, de l'espèce de... Je trouve ça beau, l'espèce d'histoire de... Ah, oh, on est... On se fait raconter qu'il y a une grande conspiration, puis on va le faire pour le bien, alors que là, on a ce personnage-là qui le fait parce que, ben là, je pense qu'il veut retrouver son bateau, il veut retrouver son île, ou je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Mais il y a une quête totalement égoïste. Mm-hmm. Mais il va quand même tout faire ce que les assassins lui disent de faire pour gagner sa vie-là, pour gagner son bateau, pour être bien heureux. Puis là, on a... Mais en même temps, on a dans Unity le retour à cette espèce de purisme-là. Et là, tout d'un coup, ça m'a tellement tapé ses nerfs de faire comme... Ah, oh, OK, je te le dis que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben OK, ben c'est ça que je vais faire. Puis là, c'est comme... Ah, oh, on se cassera pas le basic. Il faut que tu deviennes un assassin parce que c'est ça, parce que c'est dans ta lignée, parce que c'est réglé. C'est tout ce qui peut se passer.
Il y a deux éléments qui peuvent expliquer ça. Premièrement, Assassin's Creed 4 se déroule historiquement avant le 3.
Ouais.
Ce qui fait que tout ce qui se déroule dans le 3 peut pas tant être changé par ce qui arrive dans un opus qui arrive après.
Non, mais c'est pas grave, ça, parce que ce qui est important, c'est la trame narrative. Du moins, ce qui moi, m'importe,
ouais,
c'est la trame narrative du présent qui est changée. Que tu reviennes dans le passé, c'est pas...
Ouais. Non, mais ici, ton personnage à l'intérieur d'Abstergo,
ouais,
fouille narrativement dans le global, ça fonctionne. Parce qu'Abstergo a créé ses jeux, demande à des personnes qui ne s'y attendent pas de fouiller dans les mémoires de personnes. Ici, c'est Edward Kenway qui est l'arrière-grand-père de Kenway, celui que tu joues dans le 3. Donc, ce qui arrive, ce que tu fais... a du sens par rapport à Abstergo et non par rapport à Assassin's Creed. Il aurait dû appeler ça Abstergo 4 Black Flag plutôt qu'Assassin's Creed 4 Black Flag parce que à partir de ce moment-là, Black Flag, t'as beaucoup plus accès à ce qui se passe chez Abstergo parce qu'aussi t'as le Assassin's Creed The Rogue qui est où tu deviens un assassin qui va voir comment les Templiers fonctionnent. Fait qu'ici, ça, c'est la première raison qui fait que c'est différent avec le frame d'Assassin's Creed, avec l'espèce de cadre de jouabilité puis narratif, c'est que c'est pas les mêmes studios de production qui font les jeux, mm-hmm, d'année en année, puisque t'as un rythme de production qui est un an pour faire un jeu.
Mm-hmm.
Donc, les gens qui ont créé le Black Flag à la base, c'était censé être un spin-off.
Pour... Du troisième.
Ouais.
C'est un spin-off du troisième à cause du gameplay, de la jouabilité des bateaux. Dans l'Assassin's Creed 3, les bateaux sont un élément qui a fait que le jeu a réussi à passer à travers toutes les écueils. Des glitches lors de la sortie, parce que vu que tu produis un jeu rapidement, puis que c'est des jeux qui sont disponibles en ligne, avec des patchs, avec des mises à jour, tu peux régler tes bugs par la suite. Ce qui est reconnu chez Assassin's Creed, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une sortie d'un opus qui n'est pas un chiffre, t'es assuré d'avoir des glitches dans la sortie. Unity, t'es en train de jouer, t'as pas de problème, mais au moment où c'est sorti, le jeu buguait. Tellement!
Mais ça, c'est à cause des contraintes de production.
Mais c'est ça. Ce qui fait que t'as peut-être pas aimé Assassin's Creed 4 Black Flag parce qu'il y avait pas assez d'histoire d'Assassin's Creed, c'est que c'était pas censé être un opus principal de la série. Ouais. C'est pas l'histoire qui l'a amené au-devant de la série, c'est sa jouabilité de pirate. Parce qu'Assassin's Creed 4 est reconnu comme un des meilleurs simulateurs de pirate. C'est comme le Pirates of the Caribbean des années 2000 qui est jamais sorti, qu'on attendait tous. Tu peux être sur la mer, tu fais changer tes personnages, tu changes ton bateau de la proue à la poupe. C'est écœurant, là. J'ai pas fait une quest dans les 25 premières heures que j'ai joué. J'étais avec mon coloc, puis tout ce qu'on a fait, c'est « Hey! Hey, mate! Hey! » C'est tout, là. Pendant 25 heures, pas besoin.
Mais c'est concertant.
Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est un gameplay vraiment intéressant. Puis je pense qu'il faut parler justement de toute la... En tout cas, je m'amuse à dire... Je persiste et signe que le meilleur Assassin's Creed, c'est Brotherhood. Parce que tout d'un coup, quand tu passes du premier où le gameplay est excessivement répétitif, où il y a de la frustration basée sur ce qu'on a déjà parlé hors d'onde, mais tu sais, la frustration de « ben, il me semble que je suis bien caché, puis là, il me voit quand même, puis tout ça. » Mais que les quests sont, effectivement, après que tu sois comme passé à travers d'être époustouflé de la qualité de l'image, ben là, t'as le deuxième Assassin's Creed qui arrive et qui, là, tout d'un coup, a non seulement tout ça, mais en plus, une histoire intéressante, un beau gameplay, on a réglé plein d'affaires, on a ajouté comme plein de gadgets après ton costume qui rendent la chose extraordinaire. Et t'as Brotherhood qui arrive, où t'as tout ça, puis en plus, t'as des alliés qui fly, puis qui s'envoient assassiner du monde pour te libérer le chemin. Puis là, t'étais comme... Moi, j'étais comme, c'est malade. Et par la suite, j'ai pas trouvé, malheureusement, qu'un Assassin's Creed a réussi à faire un pas de gameplay assez avancé pour devancer ce feeling-là que j'ai eu en me disant, c'est vraiment une belle jouabilité qu'on a en ce moment dans Brotherhood. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben, moi, je suis allé vérifier récemment, puis encore des gens, les serveurs de Brotherhood sont encore ouverts. Fait que tu peux encore jouer en ligne Assassin's Creed Brotherhood, ce qui fait que on peut vraiment peut-être un peu palper le pouls des gamers, puis voir que c'est un oui des Assassin's Creed qui a marché, puis qui continue de fonctionner justement parce que t'as atteint un des niveaux de gameplay qui est super intéressant, puis qui te permet justement plus de liberté au niveau de l'esthétique de tes meurtres. Parce que, tu sais, arriver dans une ruelle, 6 personnes devant toi, un endroit où tu penserais jamais survivre, en 2 boutons, t'en élimines 4 parce que t'as 4 assassins qui descendent des toits pour les tuer, ce qui fait que tu te ramasses face à face avec ta victime. Sincèrement, ça amène une espèce d'affect différent de « OK, faut que je me batte à 1 contre 6 personnes puis je vais régler le problème. »
Puis sont tough, les combats à Assassin's Creed.
Mais c'est ça.
Parce qu'il n'y a pas de niveau de difficulté.
Il y a des niveaux de difficulté à Assassin's Creed.
Tu peux choisir.
Maintenant, ce qu'ils ont fait, ce que je disais, j'ai mis en commentaire quand j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed Origins, j'avais l'impression de jouer à Diablo. T'es rendu avec du dommage par seconde sur tes armes, t'es rendu avec de la durabilité sur tes boucliers, faut que tu farmes des objets pour pouvoir améliorer tes bracelets et ton armure, parce que c'est pas des affaires que t'achètes, c'est des affaires que tu augmentes avec des objets que tu trouves, mettons, sur un crocodile que tu tues, sur un pauvre bouc qui avait croisé ma route, sur une dune, tu sais, c'est comme... C'est la triste histoire, là. Le seul animal qui est pas maltraité dans ce jeu-là, c'est l'aigle, puis c'est pas mal tout. Malgré qu'il me sert beaucoup, là, parce que dans le nouveau Assassin's Creed, ils ont enfin utilisé le Eagle Vision correctement. C'est plus toi qui pèses sur un bouton, ben, ça existe encore, là, qui fait une espèce de scan de l'environnement. Comme
ouais,
si
ou tu vas voir en rouge
robot,
ou des en
mais doré. Maintenant, pour faire ça, faut que tu prennes le contrôle de l'aigle en vue objective du haut des cieux. Puis que t'ailles voir toi-même.
Faut que tu fasses
la vigile toi-même avec l'aigle. Plus tu synchronises ton personnage, plus ton aigle peut voir loin. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, tu peux quasiment prendre ton aigle de la première ville puis voir au fin fond de la carte qui doit faire des centaines de kilomètres. Là.
Mais comment tu peux expliquer que genre tu réussis à voir à travers les yeux d'un aigle?
Je sais pas comment tu veux expliquer que les mémoires sont synchronisées à l'intérieur de tes
mains. Mais ça, il y avait ça dans Dune. Là. Je suis comme plus prête à le prendre.
Le peyote.
Ouais, le peyote. Okay. Mais ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans Game of Thrones avec ceux qui, leurs yeux virent blancs puis ils sont capables de...
Effectivement. Mais là, tu vois, un des trucs qui est saillant dans ce que vous dites, c'est qu'on dirait que Assassin's Creed, c'est une franchise qui se perfectionne. En fait, qu'au début, il y avait une grande ambition... Et bon, la technologie de l'époque, donc pas peu de moyens, mais peut-être pas les moyens de leur ambition. Voilà. Donc, un gros travail à la fois sur la généalogie, mais aussi sur l'histoire.
Oui.
Fait que ça, c'est fondamental. Je dis, c'est un thème, là, un point tel que le plus récent Origins a même proposé un parcours non violent.
Je l'ai essayé.
Historique.
C'est vraiment cool.
Ça enlève. Moi, c'est le genre de truc qui m'encourage à dépenser les sommes faramineuses. À la fois pour l'achat de la console.
Plutôt, je dirais même.
Pas pire.
Merci.
Donc, il y a beaucoup de travail sur la généalogie parce que les personnages sont génétiquement connectés l'un à l'autre. Mm-hmm. Du travail sur l'histoire parce que les événements historiques se bousculent ou s'enchaînent l'un ou l'autre. Thématiquement, qu'est-ce qu'on a d'autre?
La technologie.
Mais je voulais revenir sur l'histoire, en fait.
Ah, ben, on m'excuse.
Ça m'a fait penser... Tu sais, on parlait, en fait, de la capacité, à un moment donné, à ce que l'histoire... Il y a des limites à ce que l'histoire peut nous offrir comme occasion, mais en même temps, parce que du moment où tu es capable de tout expliquer, les liens, parce qu'il y avait le personnage du chercheur qui accompagne Desmond, le grand blond, là, qui est comme l'équivalent d'un genre de de Brad Spitfire, là, comme on dirait que personne l'aime. Là.
Voilà.
Puis, non, mais...
Oui, non, c'est la meilleure...
Puis, ce personnage-là, justement, qui dit à un moment donné à Desmond, genre, on a des preuves qu'il y avait des assassins dans tel puis tel... tu sais, comme, puis il y avait aussi des preuves que Marco Polo était sûrement un assassin, puis tout ça. Puis, c'est comme, pourquoi ils n'ont pas encore été chercher ça alors qu'ils ont planté les idées dans les films, dans les opus, dis-je, précédents?
Ce qui arrive, c'est que vu qu'il faut que tu prévois tes jeux d'avance, c'est comme que, comme je disais en hors d'onde à propos d'Assassin's Creed Unity, c'est qu'il a été pensé en même temps qu'Assassin's Creed 3. Ce qui fait que...
Les développements se font
les développements se font en parallèle. Fait que des fois, une idée qui est lancée dans un jeu aura peut-être 5, 6, 7 ans à être développée pour ensuite être sortie dans l'espèce de calendrier de développement qui se donne.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que des fois, tu peux voir des espèces d'aller-retour entre 1886 Londres, la Révolution française, OK, mais là, on va faire la Révolution américaine. Oh! Mais tu sais, ce type de saut dans le temps... Les seuls qui sont peut-être concis, ça a été Altair, après ça Ezio, tu sais, ça suit.
Oui.
Après ça, le 3, ça va parce que t'es dans l'ordre chronologique des événements racontés à l'intérieur de la, à l'intérieur du jeu. Mais c'est après ça que ça, ça a chiré, comme ils disent.
Mm-hmm.
Black Flag, parce qu'il était censé être un spin-off puis qu'il n'a pas été un spin-off. Mais à partir de là, ils se sont dit, OK, ben on a déjà brisé le continuum qu'on utilisait. Fait pourquoi pas, à cette heure, juste jouer.
Mais je trouvais ça quand même intéressant d'avoir l'espèce de... C'est sûr qu'il y a un avantage à ce qu'on fasse plus l'histoire chronologique parce que au niveau, mettons, de ce qui se passe à l'époque moderne.
Ouais.
Parce que, tu sais, de jouer un personnage qui a de l'impact dans Abstergo, mais sans vraiment avoir sa propre histoire, être un petit peu un n'importe qui... Mais justement, ça peut régler bien des problèmes. Tu peux t'imaginer que cette personne-là peut avoir n'importe quelle caractéristique. Merci. Ça peut être un homme, une femme, une personne non-binaire. Ça peut être une personne en mobilité réduite. Ça peut être n'importe qui, dans un sens, parce que c'est juste quelqu'un qui parle pas puis qui se fait dire des affaires puis qui va faire les affaires. Mais en même temps, je trouvais que c'était quand même intéressant de jouer cette espèce de double personnalisation-là avec...
Mais est-ce que ce serait pas en même temps une espèce de mise en abîme du joueur en tant que tel quand il commence à jouer à Assassin's Creed aussi, tu sais? Il te demande fouille les mémoires mm-hmm. quand tu joues au jeu. Fait que le fait de te mettre en scène en tant qu'une personne qui doit jouer au jeu, moi, ça m'a fait reconsidérer ma place en tant que joueur au moment mm-hmm. où j'ai commencé le jeu.
Mm-hmm.
D'un, parce que c'était à Montréal. Moi, je voyais le stade olympique de mon appart. Je suis dans Abstergo Entertainment. Puis je le vois parce qu'Ubisoft était comme à 4-5 coins de rue de chez nous. Là. Fait que juste d'avoir la ville de Montréal recréée à l'intérieur d'un jeu dans lequel je dois jouer à un jeu...
Et c'est super méta aussi.
Ben
parce
oui.
Mais c'est super méta parce que du moment où est-ce qu'en plus que tu vois que dans Abstergo Entertainment, c'est pas des assassins qu'on a en rôle principal, mais c'est les Templiers
ouais.
qui démonisent les assassins, ça devient super méta. Puis là, tu te dis comme... Y a-tu comme une conspiration qui pourrait même être sortie de l'univers extra-diégétique ou est-ce que, dans le fond, depuis le début, on va vous piéger pour comme, que vous avez joué les mauvaises personnes
ouais.
depuis le début? Ça se
ouais.
pourrait!
Ouais.
Ça se pourrait, tu sais!
Ça a été épique, ça.
Mais bon.
C'est toi le méchant!
C'est toi le méchant depuis le début! Ça se pourrait!
Vous avez peut-être comme prévu la conclusion de cette franchise-là, si ces conclusions arriveront. Mais il y a comme... Je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que surtout, comment est-ce que vous traitez ces jeux-là comme modulaires? C'est comme, il faut comprendre cet aspect-là de l'histoire et tout. Puis quand on l'applique au domaine du jeu vidéo, qu'on sait qu'il est un modèle qui se révolue beaucoup,
ouais.
Je ne pourrais pas concevoir qu'il y ait quelqu'un actuellement, ou du moins, ça serait pour moi une exception, cette personne-là, qui joue à Origins, qui est charmé, puis qui décide de retourner à Assassin's Creed 1. Ouais. On dirait que...
Ça serait tellement un coup dans les dents, là, parce que t'as accès à la fine pointe de la jouabilité de 11 ans de recherche, même plus qu'11 ans de recherche. Mais c'est le
mais,
principe du rétro gaming.
Mais c'est pas assez loin pour être du rétro gaming. Mais il y a tellement des éléments cruciaux de l'histoire qui sont présents
ouais,
dans ce chapitre-là
ouais,
que il ouais. y a comme un un problème, il y a une dissonance
ouais.
En même temps, du jeu vidéo puis le
en même sport. Temps, on revient, je vous inviterai à aller écouter un épisode des Amazones où est-ce qu'on parlait de visionnement de jeu, puis dans le fond, ouais, ça serait très pertinent dans ce cas-là d'aller regarder des let's play.
C'est vrai.
Ouais. Pour pas avoir cette frustration là.
Absolument. Très bonne idée.
Puis parce que de toute façon, c'est pas des histoires ouvertes là, c'est très linéaire. Fait que ouais. Tu peux jouer les quests dans l'ordre que tu veux, mais dans tous les cas, tu vas te rendre au même point à la fin. Ouais. Fait que ça change rien pour ce bout-là. C'est plus au niveau du trip de jouer troisième personne, escalader des affaires, passer des casse-têtes, de OK, ben là, tu vas ouvrir telle affaire, puis tu vas sauter sur telle poutre, puis tout ça. Donc, c'est cette espèce de trip-là qui, moi, me fait vraiment triper dans Assassin's Creed. J'aime mieux ça que peut-être plus les aspects qu'on pourrait rejoindre à Splinter Cell, qui est les assassinats, on doit cacher les corps, on doit pas se faire pogner, puis tout ça. Moi, c'est personnellement, ouais, ouais. C'est, j'aime mieux les cascades et les escalades que le bout. On va s'occuper d'un corps et tout ça. Pour, ouais.
C'est vrai qu'il y a certains éléments de furtivité qui sont obligatoires dans Assassin's Creed, mais tous les assassinats qui sont donnés comme élément principal de quête, tu peux y aller à la Rambo. Là.
Oui, tout à fait.
Il n'y a rien qui t'empêche. Là. Moi, oui, mais... j'ai commencé Assassin's Creed Origin, puis ils m'ont pointé, ils m'ont pointé ma cible, puis j'ai fait « je n'arrête pas tant et aussi longtemps que je ne suis pas rendu dans sa face. » Là. Puis j'ai juste...
couru.
Non, je suis rentré par la porte principale. Le premier m'a dit « hey, what are you doing there? » Une dague d'en face. Puis là, j'ai continué à marcher. Tranquillement, pas vite. Puis à chaque fois que quelqu'un me disait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » J'ai répondu avec ma dague. Puis ben, je suis rendu au dernier gars qui est en train de manger. Puis j'ai pris le temps de le déranger dans son lunch pour me battre mm-hmm. avec lui parce que je trouvais ça chien de me faire tuer en bouffant un sandwich. Tu sais. Il n'y a rien de... Oh, tiens, quel bon...
Non, mais tout à fait, c'est pour ça. Puis c'est cette espèce de côté-là de jouabilité qui peut être justement dans la furtivité ou dans le Rambo, c'est intéressant parce que des fois, ça va te rendre des scènes... Il y en a certaines qui sont super difficiles à arriver juste à pouvoir écouter une conversation. Puis là, des fois, c'est tuer le plus gros méchant du jeu, puis c'est comme tac, 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 puis c'est fini. C'est terminé. Fait que c'est vrai que cet aspect-là, c'est important. Mais oui, c'est vrai que cet aspect-là, c'est important.
Mais tu vois, c'est drôle parce que, encore, moi, je fais beaucoup de mélange sur cette idée-là que Ubisoft se perfectionne la franchise au fur et à mesure. Et un des trucs que j'ai remarqué, c'est, par exemple, pour prendre la franchise Far Cry, qui est un jeu à la première personne, beaucoup plus de... c'est du coup de fusil dans la jungle, dans des contextes sociopolitiques assez tendus, ben on s'est retrouvé à avoir l'émulation ou la translation de certains des processus d'Assassin's Creed dans ce jeu-là. Notamment l'idée que tu montes une tour, tu regardes autour, puis là, tu as toutes tes petites sidequests qui apparaissent. Fait qu'au-delà du fait, c'est un peu pour revenir sur ce que tu disais par rapport à vouloir continuer l'expérience d'Assassin's Creed, mais se retrouver Uncharted, moi, à mon avis, c'est plus de rester dans l'univers d'Ubisoft et de faire... Bon, ça va peut-être être un peu esquisse comme progression, mais de faire... de Assassin à Far Cry, ou du moins de Far Cry à Assassin à
Watch Dogs.
À Watch Dogs, exactement. Mm-hmm. Tout est assez... c'est drôle parce que les progressions de complications sont aussi là, tu sais. Mm-hmm. Far Cry est le jeu qui est le plus Ramboisable à Assassin's Creed, qui est un Rambo tiède à Splinter... pas à Splinter Cell, pardonnez-moi, à Watch Dogs, qui est un full-on, comme faire attention à au numéro de téléphone que tu composes.
Ouais.
Fait que peut-être de rester même dans l'écurie Ubisoft nous permet de voir comment est-ce qu'ils ont travaillé ces idées-là de game design.
Ah, mais ouais, tout à fait.
Abstergo Entertainment existe dans Watch Dogs, puis le système informatique utilisé dans Watch Dogs c'est le système informatique utilisé par Abstergo, donc c'est des univers diégétiques connexes.
Ça, c'est intéressant, je ne savais pas.
Ben oui.
Puis, mais pour revenir sur... parce que
excuse-moi, je t'ai coupé.
Je viens de me rappeler qu'il fallait que je parle de... toute cette espèce de développement personnellement que j'ai eu, je pense, avec le premier Assassin's Creed, que j'ai pas terminé parce que, comme je dis, gameplay trop frustrant et très répétitif, mais à partir du deuxième, là, où vraiment, là, l'aspect des side quests, mm-hmm. là, tu dis, je vais toutes les trouver, les glyphes, je vais toutes les trouver, les maudites plumes, je vais toutes les trouver, puis là, à un moment donné, là, tu te rends compte, là, puis... En tout cas, puis là, c'est tout un autre aspect qu'on pourrait passer bien du temps, puis on en a même parlé à l'émission, encore une fois, je ramène aux Amazones, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé de est-ce que vouloir finir le jeu à 100%, si ça implique d'aller regarder des gameplays, d'aller lire des walkthroughs. Est-ce que c'est tricher? Est-ce que c'est pas justement essayer d'aller débloquer tout l'aspect du jeu pour le rendre le plus complet vu que t'as payé pour de toute façon? Tu sais, c'est comme...
C'est un bon argument, ouais.
C'est
ouais.
L'histoire complète des collectatons.
Ouais, puis le complétionnisme.
Le complétionnisme.
Hein? Qu'on avait dans Assassin's Creed, quand tu trouvais toutes les glyphes, ça te débloquait des puzzles. Puis en trouvant les puzzles, ça te débloquait des bouts de vidéos. Puis quand tu avais trouvé toutes les vidéos, tu voyais Adam et Ève qui couraient dans un monde...
Futuriste.
Oui, tout à fait.
Qui est dans le passé.
Ouais. Vous mélangez, ben,
c'est le principe de... Dans l'ancien temps, il y avait des civilisations extraterrestres qui avaient des technologies beaucoup plus grandes que les nôtres. C'est l'espèce de trope qui reprend.
OK, c'est Gods of Eden.
C'est Gods of Eden. Ouais, ben, okay. Tu sais, c'est la pomme d'Eden. Je veux pas...
OK.
Mais dans les faits... Dans les faits, tu continues un conflit éternel, tu trouves pas de solution. T'sais, tu fais juste protéger une pomme. Au final, tu trouves pas de solution pour mettre fin aux Templiers, puis les Templiers seront toujours plus forts que toi.
Ça m'a fait penser à Black Panther, cette affaire-là. Ils se battent pour une technologie qui doit pas tomber dans les mains d'autres personnes parce que ça va changer la manière avec laquelle le monde roule déjà.
Mm-hmm.
Et c'est cet éternel conflit. Mais c'est... technologie.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les Templiers qui est quand même un peu... Il y a une foi qu'on offre quand même à la mission des assassins parce qu'au final, c'est... Il faut pas que les Templiers aient la pomme parce qu'il faut pas qu'ils soient plus puissants parce que ce qu'ils veulent, c'est contrôler le monde. Mais ouais. Dans les faits...
En assassinant du monde politiquement, qu'est-ce que tu fais?
Et dans les faits, les Templiers... Parce que les assassins restent comme... On les décrit même dans le futur avec Desmond, son père aussi qui était assassin, puis tout ça. C'est des gens de l'ombre, c'est des gens qui font pas... Tu sais, qui sont aussi... Qui semblent venir d'un milieu comme pas très... qui semblent pas avoir le pouvoir. Mais pourtant, je veux dire, les Templiers, on dit... Bien, ils sont placés politiquement partout. Ils ont accès à l'argent, ils ont accès aux technologies. C'est eux autres qui ont même des moyens de contrôler la pensée puis l'histoire avec des jeux vidéo. Puis c'est comme... Ouais, mais dans les faits, ils ont déjà le pouvoir. Fait, à quoi ça sert de réellement cet équilibre-là? Il sert à quoi? T'sais? Puis maintenant, avec le personnage de Minerve qu'on a parlé un peu plus tôt, puis qui me fascine vraiment beaucoup, puis je me questionne, moi qui ai joué par la suite au 4, puis est-ce qu'on a quand même pas mal délaissé les divinités, mais ça me dans le 4. Ouais, c'est très flou dans ma tête, faut dire. Tu pourras me reprendre là-dessus. Puis par la suite, toi qui as joué jusqu'à...
Je les ai pas tous essayés un à la suite de l'autre. Là. Faut dire que j'ai quand même essayé au moins 2-3 heures de chaque jeu pour voir s'il y avait différence avec l'ancien. Tu sais, c'est...
Mm-hmm.
Parce que dès que tu commences un jeu, si tu veux le finir, t'en as pour 45 heures. Puis parce on que s'entend que les heures volent vite.
Parce que j'ai quand même l'impression qu'on continue à baser toute l'expérience du jeu narratif sur un concept de « faut juste que tu nous crois que tu fais la bonne affaire », mais au final, c'est des puissances qui n'est pas dans un manichéisme total. Tu sais,
ah ben oui, non, c'est ça. C'est pour ça qu'Assassin's Creed Rogue est extrêmement important, parce que ça joue sur la ligne ténue entre quelle est la bonne chose à faire, mais la différence, c'est le dernier thème qui était quand même important, c'est celui de la destinée, parce que techniquement... Tout a déjà été écrit dans les Assassin's Creed parce que Minerve, justement, dit « OK, ben votre groupe d'assassins était prévu, on a laissé notre technologie là pour vous, on savait que vous alliez vous créer parce qu'on savait que l'événement catastrophique allait arriver en 2012. C'est pour ça qu'on vous a préparé pendant 1000 ans. » Fait que dans le fond, ils ont une connaissance temporelle différente de celle des humains en tant que telle, parce que sinon, il n'y aurait aucune façon de prévoir à l'avance et de programmer à l'intérieur des mémoires des choses, parce que Minerve prend contrôle de la génétique de son amant qui est mort. Fait que ton personnage programmeur que tu joues dans le 4, c'est Minerve qui le contrôle en même temps. Puis tu vois des... Fait que dans le fond, ta Minerve est pas un personnage qui est présent, c'est un personnage transcendant qui reste à l'intérieur des pensées puis des gènes de ceux qui peuvent se faire contrôler par elle, qu'ils soient dans Abstergo ou des assassins.
J'aime tellement ça, là.
Ben ouais,
moi, je crains. Je sais pas si c'est écoutable ce qu'on est en train de dire. Je suis comme, quoi?
Ben, on dit souvent que je t'opaque dans mes descriptions, mais donnez-moi pas des sujets autant gros. Ça va faire...
Non, mais on va parler de
Pong.
Oui!
Mais moi, en ce moment, là, j'ai les chills, là. Je suis vraiment très heureuse d'entendre ça.
C'est là que j'ai ressorti un livre comme de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, parce qu'un des éléments primordiaux dans Assassin's Creed, c'est les assassinats politiques. On s'entend.
Mm-hmm.
Sans assassinat politique, pas d'Assassin's Creed. Donc, l'élément, comme tu disais, tu sais, il y a une espèce de scène qui est mise en place avec « je vais faire de la reconnaissance, j'écoute ma victime ». Fait que oui, il y a des moments qui peuvent être plates parce que t'es en furtivité, mais c'est que ça donne accès à toute la préparation d'un assassinat. Au lieu de juste te dire « va là-bas, tu l'es », c'est « ok, est-ce que c'est la bonne personne? Quand est-ce que c'est le bon moment pour l'attaquer? » Donc, ça donne une espèce d'accès aux trois éléments les plus importants de l'assassinat considéré comme quelque chose d'esthétique, c'est la personne, le lieu, puis le temps. Donc, en observant à chaque fois les assassinats que j'ai faits dans Assassin's Creed Origins selon ces trois caractéristiques esthétiques des assassinats, parce qu'on s'entend, ces personnes-là vont mourir de toute façon parce que c'est dans un jeu, puis on sait déjà qui tue, puis on va de toute façon réussir à s'en sortir, tu sais, malgré le fait qu'on ait tué quelqu'un. Fait qu'à partir du moment où on passe par-dessus cette espèce de morale-là, on peut juger un assassinat, selon Thomas de Quincy en 1820, on peut juger un assassinat de manière esthétique. Parce que, oui, il y a des gens qui sont devant un feu, des fois une maison qui brûle, puis il y a quand même des gens qui vont dire « c'est un beau feu ». Donc, au moment où tu te dis « ok, tous les assassinats que je vais faire », je peux bouger la caméra d'une certaine façon. Je peux sauter d'un toit, faire un saut de l'ange puis réussir à assassiner quelqu'un d'une manière que, justement, j'ai vu dans le trailer. Fait que déjà, dans la première cinématique du jeu où ton personnage montait en haut puis assassinait des gens, il te programmait toi à esthétiser tes assassinats à l'intérieur du jeu. Puis tes habiletés que tu as, mettons, dans le nouveau Origins, où est-ce que tu fais comme dans Final Fantasy puis tu as une grosse roulette dans laquelle tu choisis tes habiletés comme... tirer à l'arc à cheval ou posséder deux armes ou des affaires comme ça, ça change la manière avec laquelle tu vas entreprendre tes assassinats, mais ça va aussi changer toute leur esthétique. Fait que si tu veux accéder à des meurtres de plus en plus cool pour toi pour pouvoir après les mettre sur Internet parce qu'il y a le streaming, les gens qui se font le plus écouter, c'est les personnes qui réussissent à faire pas les meurtres les plus efficaces, mais les meurtres les plus esthétiques, parce que c'est ce qui est repris dans Hitman ou dans Metal Gear. Ouais. Les missions où tu as le plus de succès, où tu obtiens une note la plus haute, c'est les moments où tu as réussi à faire le tout d'une manière la plus esthétique au niveau de ta victime, au niveau de ton environnement, parce qu'il faut que tu en profites, puis au niveau du temps que tu as pris pour l'accomplir, que ce soit long ou que ça soit court. Il y en a que c'est comme, OK, je vais réussir cet assassinat-là en 3 secondes, ou cela, ça fait une semaine que j'ai spoté sa personne, j'ai mis du poison dans la bouffe, puis j'attends qu'il me mange puis qu'il meure, ce que tu peux faire dans Hitman. Fait que là, t'as une espèce de jeu, non pas avec « je vais compléter le jeu », mais regardez-moi faire un assassinat qui va vous épater au point de vous dire genre « hey, j'aimerais ça, moi, faire des trucs comme ça, moi, Assassin's Creed. »
Mais c'est pas accessible pour tout le monde. Non. Il fallait quand même qu'on retrouve. Il fallait parler des supports.
Oui.
T'sais, c'est ça, je parlais tantôt de l'idée que bon, les walkthroughs, les let's play vont faire en sorte qu'on n'aura pas de besoin de se de retourner en compatibilité puis d'aller se racheter une. C'était Xbox initialement. Ça a-tu commencé sur Xbox?
C'est Xbox 360.
Ça a commencé sur 360.
C'est rétro-compatible, ça, par exemple. La Xbox 360 est rétro-compatible sur la Xbox One. Puis même, ils ont fait le Ezio Collection au PS4 puis au Xbox One. Ben oui, tous les jeux qui étaient... Ben oui, il faut que tu payes. Ou vous allez à la BANQ, où vous avez droit de louer 5 jeux pendant 3 semaines avec 3 renouvellements, ce qui vous fait une économie d'au-dessus de 345 $ si jamais vous êtes de ceux qui vont dans des magasins pour louer vos jeux à un montant ridicule par semaine. Je vous dis ça comme ça, Jance. C'est comme ça que j'ai joué à Assassin's Creed Origins et ça m'a coûté
mais c'est
rien
ça.
Du tout.
Pis c'est une belle alternative pour Elisabeth, ce que tu dis en introduction. T'es un peu...
Mais que j'ai dit que j'allais finir par parler, finalement qu'on n'a pas parlé, effectivement. Non, on peut en parler là, mais tu sais, je veux dire, ça reste que il y a une relation quand même. Le jeu vidéo peut être un luxe, dépendamment de à quoi tu décides de jouer. Puis il y a, on va pas se mentir, il y a une... Il y a un snobisme ou du moins il y a un élitisme autour du jeu vidéo où est-ce qu'on va dire comme bon ben il faut que tu l'aies joué, il faut que tu l'aies joué rapidement, il faut que tu l'aies fini rapidement, il faut que tu l'aies joué plusieurs fois puis tout ça, mais dépendamment des jeux. Mais entre autres, je veux dire, je me suis déjà fait shamer parce que j'avais pas joué encore à la, je crois que c'était le 4e à ce moment-là, c'était probablement en 2013, je crois que je m'étais fait dire ça quand quelqu'un avait dit un punch de Assassin's Creed. En fait, j'étais même à la radio, mm-hmm. à CISM, et je me suis fait shamer parce que je connaissais pas la finale de Assassin's Creed 4 ou quelque chose comme ça. Ou, puis j'avais dit, ben moi, j'ai pas l'argent
yeah, oui, c'est ça.
Pour m'acheter des jeux à 80$ à chaque année pour comme être à jour.
Oui, juste ouais. pour être capable de...
J'ai de la misère à aller au cinéma des parties de l'année, comme, tu sais, pour aller voir un film à 10$. Fait que je vais pas payer 80$. Puis en plus de tout ça, je travaille vraiment très fort. Fait que c'est vraiment chiant d'acheter un jeu à 80$ que t'auras pas le temps de jouer avant 3 mois, tu sais. Fait que bref, il y a que des avantages à jouer de façon... En tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est quand même important. Puis ne shamez pas les personnes parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des jeux. C'est pas bien.
Mais de toute façon, je pense que c'est Roger Caillois qui a dit... Non, c'est pas le Roger Caillois. C'est Roger Adin. Roger Adin qui a dit qu'il y a rien qui t'empêche, il y a rien qui empêche un plaisir à écouter ou à lire quelque chose duquel on sait déjà la fin, juste pour le plaisir de se faire surprendre de toute façon parce que t'as une intrigue qui se crée, t'as mm-hmm. un suspense qui se crée. Puis malgré la fin... que tu connais pas la manière avec laquelle elle va t'être mm-hmm. livrée.
Ouais. Mm-hmm.
Il y a des films...
C'est pas la destination, c'est le parcours.
T'sais, ouais, ben c'est ça, t'sais, des films comme les films noirs, là, celui qui meurt dans la piscine au début. Là.
Sunset Boulevard.
Bon, le gars, il est mort depuis le début. Tu le sais qu'il meurt.
Mm-hmm. Ah, mais là, je savais pas.
Ben, le film commence sur son cadavre. Je m'excuse, mais c'est pas un divulgachage.
Ben non, mais là, il y a une saison d'Archer qui commence comme ça aussi.
Ben, c'est ça.
Moi, mais finalement...
Ouais, mais non, c'est ça. Mais
ça,
tu vois...
Les...
Ouais, ben là, les... Ce n'était qu'un rêve! Pire trope.
OK. Oh, c'est bien utilisé, ça peut bien se passer.
Ouais, ben des fois, c'est perdu dans les choses. Je voulais faire une joke avec Lost, mais j'ai perdu la game en général.
OK.
Ouais, oh, ce n'était qu'un rêve.
Et c'est sur ce rêve que se conclut l'émission. Merci énormément, vous deux, d'avoir participé.
Mais ça m'a fait plaisir.
C'est correct.
Ben oui,
c'est excellent. Je suis content pour ça. Oui. Bonne soirée tout le monde. Bonne écoute.